Radio Classique. Le journal imprévisible.
8h moins quart, l'heure de retrouver Marc Bourreau pour son journal imprévisible. Bonjour Marc.
Bonjour David, bonjour à tous.
Qui sera la gagnante de la Maestra, ce concours de direction d'orchestre féminin, se tient cette semaine à la Philharmonie de Paris. 14 candidates en lice pour faire avancer les femmes dans ce milieu très masculin de la direction d'orchestre, les femmes chefs, une évolution qui s'est faite, dites-vous, moderato.
Oui, car elles sont 4% en France encore aujourd'hui à diriger un orchestre, 6% dans le monde. Et depuis des années, David, comme dans cette publicité, être une femme chef d'orchestre, c'était un sujet cosmétique.
Qu'est-ce que vous faites ?
Je suis chef d'orchestre.
Je ne vous crois pas.
C'est le mot chef ou orchestre qui vous gêne.
Comment y êtes-vous arrivé ?
En tenant une baguette et en agitant les bras.
Votre visage me dit quelque chose. Ah, vous êtes une femme, Barbara Gould.
Eh oui, voilà.
Incroyable de bêtises.
Incroyable de bêtises. Et pourtant, il y a des femmes que l'on a oubliées, David, comme l'américaine Antonia Bricot, peut-être l'une des premières à tenter de faire sa place, comme ici, à la baguette de l'Orchestre symphonique de Berlin dans les années 30. Antonia Bricot, des tournées triomphales en Europe, au Japon, une carrière prometteuse qui s'est stoppée net aux États-Unis.
Il fallait intégrer un club, le Cactus Club. C'était très à la mode, il n'y avait que des hommes, et ils se sont demandé comment on peut intégrer une femme dans ce club. Moi, je voulais diriger des orchestres à New York, à San Francisco. Je ne raconte pas à quel point mon cœur s'est brisé. Mes proches ne le comprennent pas. C'est un déchirement perpétuel.
Un plafond de verre et des pas de côté. À l'époque, pour devenir chef d'orchestre, David, la solution, c'était de créer ses propres compositions, voire son propre orchestre de femmes. Alma Rosé, la nièce de Mahler, Emma Roberto Steiner, ou encore en France, l'Orchestre féminin de Paris, créé en 1930 par la virtuose Jeanne Évrard.
J'avais des filles épatantes, ça a été la joie, ça a été formidable. En Espagne, ça a été quelque chose, parce que nous avons eu là-bas un succès. Pour les hommes, naturellement, mais les femmes aussi. Elles venaient près de nous, elles nous touchaient, elles nous prenaient pour des êtres absolument extraordinaires. C'était vraiment très émouvant. J'étais habitée. Je ne suis pas Jeanne d'Arc, mais enfin, il fallait que je le fasse. J'étais poussée. J'ai eu comme une revanche, il faut le dire, parce que j'ai eu mon orchestre.
Jeanne Évrard et ce témoignage assez incroyable, hein, source d'inspiration Jeanne Évrard pour Laurence Equilbet par exemple, ou encore Aviva Einhorn, première femme à décrocher le premier prix de direction d'orchestre à Paris.
Dans la vie, tout pose un problème pour une femme, malheureusement, ceci ou autre chose. Si j'avais pu choisir, je crois que je serais née homme.
Aviva Einhorn et le poids des préjugés. Interview de ces musiciens, écoutez-les, pas toujours tendres.
Je pense que les femmes et les hommes ont des dons équivalents. Mais je pense qu'il y a peu de femmes qui sont nées pour commander.
S'il y a aussi peu de femmes à essayer cette carrière, c'est peut-être parce qu'elles n'aiment pas trop se trouver dans la position du dompteur dans la cage au lion. Du point de vue physique, du point de vue autorité, en fait, ces deux points de vue jouent contre la femme.
Et voilà, l'autorité, la force physique. Question que l'on pose 30 ans plus tard à Claire Gibault, première femme à diriger la Scala de Milan, aujourd'hui co-organisatrice du concours La Maestra. En 82, celle qui dirigeait l'orchestre de Chambéry à l'époque faisait elle aussi l'expérience des remarques déplacées.
On peut se dire Claire Gibault, c'est une femme très bien pour diriger une formation Mozart, 40 musiciens, pas de problème. Mais pour Wagner et Berlioz, c'est autre chose. Il faut vraiment une force physique importante.
Il faut une grande résistance nerveuse, surtout, franchement, les danseuses ont beaucoup plus de résistance physique que n'importe quel chef d'orchestre.
Non, non, elle est trop longue, et puis surtout, vous l'appuyez, alors que l'accent, c'est pas... L'accent est sur la première, hein, quand même.
Il y a quand même une nouvelle race de chefs d'orchestre, on est obligé de trouver des rapports complètement différents. La dictature, ça n'existe plus. Les musiciens de l'orchestre participent autant que moi au travail de la qualité de l'orchestre, c'est-à-dire que je leur donne leurs responsabilités.
Diriger un orchestre, faire naître la musique, était déjà vital pour moi. Voilà que soudain, j'ai l'impression d'avoir reçu une autre mission.
David, vous entendez la voix de Déborah Waldman, première femme en France à être nommée chef d'un orchestre national, celui d'Avignon en Provence.
Il y a eu un événement, disons, un peu surnaturel pour que maintenant ça devienne naturel. Peut-être dans 20 ans, on pourra ne plus en parler.
Les femmes chefs d'orchestre, de la ténacité, du caractère, peut-être le principe essentiel pour les 14 candidates de la Maestra cette semaine. Conseil, dernier conseil de l'une des pionnières des femmes chefs d'orchestre, Nadia Boulanger, à la baguette du London Philharmonic, c'était en 1936.
Il y a ce merveilleux mot de don, il est doué. Celui qui est là a une responsabilité effrayante parce que s'il a le don extraordinaire, s'il a une technique extraordinaire, mais qu'il n'a pas un caractère. Tout est perdu. Sans caractère, on ne peut attendre rien de personne.
Marc Bourreau, le journal imprévisible, après la chronique de la semaine dernière sur le manque de femmes ingénieurs, voici la chronique sur le manque de chefs d'orchestre dans le monde de la musique, de chef-feu. Chronique à retrouver sur radioclassique.fr. Merci Marc, à demain.
À demain.
Tout de suite, un logo pour Decathlon qui n'en avait pas, figurez-vous.